Alors, je vais bien sûr vous lire un passage. Voyez-vous, il y a une quinzaine de, il y a 15 jours, nous avons tenu dans ce temple l'Assemblée générale de l'association Agapé, qui est, vous le savez, l'association d'aide sociale pour simplifier. C'est obligatoire parce que la loi de séparation des églises et de l'État a prévu la formation d'associations cultuelles, mais qui ne peuvent faire que le culte. Et donc, si nous voulons faire autre chose, eh bien, il faut faire des associations particulières pour la jeunesse, etc. Et donc, cette association Agapé, vous savez qu'agapé, en grec, c'est l'amour. De façon, il y a plusieurs façons de parler de l'amour en grec, mais enfin, on traduit agapé par amour. Je crois que nous devons ce titre, d'ailleurs, à Bernard Puissin-Bonneau, quand on a fondé l'association. Mais donc, j'ai pensé que nous pourrions nous intéresser ce matin à qu'est-ce qu'être chrétien dans la vie sociale. L'agapé, voyez-vous, c'est pour agir dans la vie sociale, du moins notre association. Donc, il n'y a pas beaucoup de textes du Nouveau Testament qui parlent de la vie sociale. En général, les conseils, tout particulièrement ceux de Jésus, sont des conseils de vie personnelle. Mais on en trouve tout de même, et on en trouve notamment dans l'épître à Philémon, texte qu'on ne lit pas très souvent, mais que je vais vous proposer donc ce matin, en vous lisant une partie, bien sûr, de cette épître. Tout d'abord, les versets 1 à 3, puis les versets 9 à 18. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre collaborateur bien-aimé, à Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'église qui est dans ta maison. Vous voyez, ça s'adresse à la communauté. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je passe quelques versets. C'est pourquoi, bien que j'ai dans le Christ une grande assurance pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te supplier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, et je te supplie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il est bien utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. Vous voyez, mon enfant, je l'ai engendré en prison, une partie de moi-même. Voilà comment il présente Onésime. Moi, j'aurais souhaité le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place, tant que je suis en prison pour la bonne nouvelle. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, pour que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais ce qui est mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Mieux qu'un esclave, un frère bien-aimé. Il l'est tout particulièrement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, et dans la chair, et dans le Seigneur? Si donc tu me tiens pour ton compagnon, accueille-le comme si c'était moi. Alors, cet épître à Philémon, qui n'est pas facile à expliquer, j'ai eu du mal de le dire, c'est la plus courte de toutes les épîtres de Paul. 135 mots. Il n'y a même pas de chapitre. Il n'y a qu'un chapitre. Et pourtant, elle a beaucoup fait parler d'elle. En effet, pendant très longtemps, bien des chrétiens, pas tous, mais bien des chrétiens, sont servis pour justifier l'esclavage. Tout simplement parce que Paul ne demande pas, dans cet épître, l'abolition de l'esclavage. Vous savez que les Français, dans les colonies françaises, on a aboli l'esclavage seulement en 1848. Et le dernier de la sphère occidentale, disons, c'est le Brésil en 1888. Alors, en effet, Paul ne demande pas la suppression de l'esclavage, c'est vrai. Mais ce n'est pas le sujet de cette épître. La question, c'est qu'est-ce que Paul dit à Philémon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être chrétien dans la vie sociale? Alors, c'est un sujet important, puisqu'on est au tout début du christianisme. Tout début du christianisme est vers 50-60, il n'y a pas de Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, le premier évangile de Marc, date de 70, et les quatre évangiles sont en gros rédigés entre 70 et 95. Donc, les épîtres de Paul sont les premiers écrits chrétiens qui nous soient parvenus. Et Paul, qui est aidé d'ailleurs par une équipe, l'épître de Paul, il y a une équipe qui travaille avec lui, eh bien, il doit faire beaucoup de choses, et en particulier trois choses. D'abord, une synthèse de la doctrine chrétienne, parce que Jésus n'a pas fait de synthèse. Et puis en plus, on n'a même pas encore les évangiles. Il doit donner des conseils sur la forme de l'Église, parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, et que Jésus n'a donné aucun conseil sur la formation de l'Église dans ses évangiles. Et enfin, il doit donner des conseils sur le comportement. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien ? Aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie collective. Alors, aujourd'hui, donc, je vous propose de nous intéresser à la vie sociale. Et pour traiter ce sujet, si je puis dire, je vais suivre trois points. Le plan en trois parties qu'on m'a appris au lycée. Donc, au début, rapidement présenter le contexte historique. Deuxième point, nous verrons les conseils théorique que Paul donne dans cette épître. Et enfin, je prendrai un exemple de traitement de la vie sociale par Paul, pas dans l'épître à Philémon d'ailleurs, c'est dans la première épître aux Corinthiens. Commençons par le contexte historique. Alors, a priori, on peut penser qu'il s'agit d'une affaire privée, un problème entre Philémon et son esclave Onésime. Seulement, voilà, les responsables de l'Église primitive qui ont fixé la liste des textes du Nouveau Testament nous l'ont transmise. Et donc, c'est bien qu'ils considéraient qu'il s'agissait d'un problème général et qui pourrait, au cours des temps, être utile aux chrétiens. De plus, ce n'est pas une lettre privée. Je vous ai lu tout à l'heure le début. Il s'adresse, bien sûr, à Philémon, mais il s'adresse à Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'église qui est dans ta maison. Notez qu'il parle d'une femme avant un homme. Mais ça, c'est dans les églises de Paul, vous le savez, les femmes prêchent dans les églises fondées par Paul. Église qui est dans ta maison, parce que s'il faut comprendre, c'est que nous sommes au tout début du christianisme et que les chrétiens n'ont pas encore de bâtiment. Ce sont des églises de maison. Les églises se réunissent dans la maison d'un riche qui peut avoir entre 20 et 40 personnes en se serrant un petit peu. Donc, c'est toute l'église de Colosse, puisque Philémon habite la ville de Colosse, vous connaissez l'épître aux Colossiens, ville en Asie mineure actuelle, toute l'église qui est intéressée. Quant à la date de rédaction, Paul se dit prisonnier. Comme il est prisonnier, il a été prisonnier deux fois, une fois à Éphèse en 52-53, et une autre fois à Rome en 60-62. Donc c'est entre ces deux dates, on peut dire que cette épître date des années 50. Quel est maintenant l'objet? Quel est l'objet de cette épître? Eh bien, Onésime, esclave de Philémon, a quitté la maison de son maître et s'est réfugié chez Paul. Paul est prisonnier, mais il est en fait pour nous en résidence surveillée, et quand on est en résidence surveillée dans le droit romain, on peut accueillir des gens. Mais au contact de Paul, Onésime s'est converti au christianisme et il a été baptisé. Vous le savez, les esclaves ont très peu de droits, très peu, dans l'Empire romain, mais ils ont tout de même un droit, qui est d'adhérer à un mouvement religieux différent de celui de leur maître, du moment que ce mouvement religieux ne soit pas illégal. Et dans les années 50, le christianisme n'est pas illégal, mais nous sommes au tout début du christianisme. On ne sait rien de la cause. Pourquoi Onésime est parti? Théoriquement, pour un esclave, c'est un crime très sévèrement puni de quitter la maison de son maître. Et personne, théoriquement, n'a le droit de l'accueillir. Sauf que, parce qu'il y a quand même des droits pour les esclaves, le droit romain prévoit qu'un esclave en conflit avec son maître peut se réfugier chez un ami de son maître. Celui-là a le droit de l'accueillir à condition de le renvoyer chez son maître, qui peut l'accueillir et qui, tout en intercédant pour lui. Et c'est ce que fait Paul, puisqu'il renvoie, Onésime à Philémon, mais tout en intercédant pour lui. Donc on peut penser que c'est ce cas de figure. Alors, pour comprendre l'attitude de Paul, il faut se souvenir de ce que c'est que l'esclavage dans les années 50 dans l'Empire romain. Vous le savez, pour nous, l'esclavage, c'est une abomination qu'il faut combattre de toute notre force, bien sûr. Seulement, en 50, c'est très différent. Tous les peuples du bassin de la Méditerranée, même les autres, semble-t-il, pratiquent l'esclavage. Et on trouve normal ce à quoi on est habitué. Les esclaves font partie de la société, ils sont regardés comme absolument indispensables à la vie économique, et on ne voit pas comment on pourrait s'en passer. D'ailleurs, personne ne le fait. Vous voyez, dans toute la littérature gréco-romaine qui nous est parvenue, on n'a pas trouvé un seul texte qui demande l'abolition d'esclavage. Même les stoïciens, qui théoriquement devraient être contre, mais ne voient pas comment on pourrait abolir l'esclavage. Donc, comment imaginer que les chrétiens, qui sont alors une infime minorité dans quelques villes de l'Empire romain, pourraient se lancer dans une campagne d'abolition de l'esclavage? Ça n'aurait véritablement pas de sens, d'autant plus que qu'est-ce que veulent les chrétiens dans les années 50? C'est se faire accepter. C'est se faire accepter, et ce n'est pas le moment de se singulariser en demandant l'abolition d'une institution que tout le monde trouve normale. Donc, c'est vrai, Paul ne condamne pas l'esclavage. Il se contente de respecter la loi romaine et de renvoyer l'esclave Onésime chez Philémon. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que les conseils qu'il donne à Philémon sur la façon de traiter son esclave Onésime, c'est quelque chose de bien plus fort qu'un simple affranchissement politique. Donc, par ailleurs, on peut aussi noter quand même que Paul n'approuve pas l'esclavage. Il n'en parle pas parce que ce n'est pas son sujet. Son sujet, et ça va être l'objet de mon deuxième point, c'est qu'est-ce qu'être chrétien dans la vie sociale? Alors, on peut noter que dès le début, Paul fait un parallèle entre lui et l'esclave Onésime, qui induit une proximité entre Paul et Onésime. Paul se dit prisonnier, verset 1, verset 9, verset 23, etc. Il se dit prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il est à la fois lié à Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il a accepté, bien sûr, la doctrine chrétienne, et qu'il est à la fois prisonnier, en raison de son acceptation de la foi chrétienne, dans la société, prisonnier en résidence surveillée, comme je vous le disais. Donc, d'ailleurs, on peut le noter au passage, c'est un peu une parenthèse, mais vous voyez, Paul est citoyen romain. Et dans l'Empire romain de ce temps, seuls les citoyens romains ont le droit de se déplacer librement. Donc Paul peut aller dans tout l'Empire romain sans demander d'autorisation. Mais il n'y a que les citoyens romains. Et donc, si Paul a réussi, enfin, il y a d'autres raisons, mais une des raisons de des réussites de la prédication de Paul, c'est qu'il pouvait se déplacer partout. Et donc, si Paul est maintenant prisonnier, il doit ressentir ça d'autant plus fortement que ça l'empêche de continuer sa campagne missionnaire. Donc, Paul est prêt à comprendre le problème d'Onésime, qui lui est prisonnier de son état d'esclave. De son côté, Onésime est devenu chrétien. Donc il est lui aussi lié à Jésus-Christ. Et la foi chrétienne donne une liberté intérieure, et en particulier une liberté vis-à-vis des conventions sociales qui existent dans l'Empire romain. Donc ça rapproche évidemment Onésime de Paul. Donc on peut dire en effet que la situation facilite les choses pour Paul. Mais ce qui est quand même le plus important, c'est que dans ce texte, un homme libre, citoyen romain, comme Paul, peut dire qu'un esclave, c'est son fils. Et que pour un romain ordinaire, pour un païen, un gréco-romain, disons, c'est absolument inenvisageable. Donc, on a un premier enseignement, c'est que les institutions sociales induites par la religion gréco-romaine, si importantes dans cette société de ce temps, n'ont aucune valeur dans les communautés chrétiennes. Bon, mais on y trouve aussi un deuxième enseignement. Paul doit résoudre un problème difficile. Donner des conseils à Philémon. Bien que le christianisme soit le contraire, je viens de vous le rappeler, des normes sociales gréco-romaines. Et pourtant, Paul renvoie son esclave, renvoie Onésime à Philémon. Donc Paul a l'air bien respectueux de la législation de la société gréco-romaine. Et en plus, la difficulté vient de l'Onésime qu'il renvoie, ce n'est pas celui qui est parti de la maison de son maître. Il était païen et il est devenu chrétien. Ce n'est plus le même Onésime, c'est un frère dans la foi. Et Paul le présente comme son enfant, une partie de lui-même. Donc, vous le voyez, un esclave peut être son enfant, peut être une partie de lui-même, qui est une métaphore très importante. Mais il reste que Paul doit répondre à la question de fond. Comment fait-on pour commander un esclave qui est un frère dans la foi? Et de plus, un frère qui ressemble beaucoup à Paul et que Paul présente métaphoriquement comme son enfant. Comment peut-on être esclave à la maison et frère dans l'église de maison, justement, d'autant plus que l'église se réunit dans la maison? Question difficile, à laquelle, évidemment, Paul répond, et je pense que c'est pour ça que l'église primitive nous a transmis sa réponse. Comme d'habitude, la réponse de Paul n'est pas politique, elle est théologique. Il écrit: bien que j'ai dans le Christ une grande assurance pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te supplier au nom de l'amour, de l'agapé, puisque vous le savez, les textes du Nouveau Testament sont écrits en grec. Et il lui demande de recevoir Onésime, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Reçois-le comme si c'était moi. Vous voyez, c'est quand même nettement plus fort qu'un simple affranchissement politique. Alors, si on veut réfléchir, on voit d'abord que Paul ne donne aucun ordre. Ce qui montre au passage que le christianisme, ce n'est pas un code de la vie, comme il y a un code de la route, mais au contraire, un appel permanent à la réflexion et à la responsabilité. Qu'est-ce que fait Paul? Il dit à Philémon: « Mais toi, Philémon, qu'es-tu devenu en t'affirmant chrétien ?» et en demandant le baptême. C'est à partir de cette question, c'est à partir de cette nouvelle naissance qu'est le baptême, qu'il te faut prendre une décision responsable dans la vie sociale vis-à-vis d'Onésime. En effet, Paul, dans ses épîtres, précise souvent que devenir chrétien, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas seulement changer d'opinion vis-à-vis de Dieu, de dire qu'il n'y a qu'un Dieu et non pas plusieurs, d'être monothéiste et pas polythéiste. Ça a le but de transformer la vie, parce qu'on est accepté par Dieu inconditionnellement. Il n'y a pas de condition à être baptisé. Il suffit de le demander si, bien sûr, on accepte la doctrine chrétienne. Donc, être accepté inconditionnellement par Dieu, c'est une nouvelle identité qui dévalue tous ceux qui discriminent, en particulier dans la vie sociale. Donc, Paul dit à Philémon, tes rapports avec Onésime doivent changer. Parce que, comme il l'écrit d'ailleurs dans l'Épître aux Galates, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Oui, ça va loin. Et il le met en pratique, Paul, puisque, vous le rappelez, les femmes prêchent dans les églises fondées par Paul. Donc, voyez-vous, nous avons là une innovation fondamentale du christianisme. Dans l'Église, les esclaves sont sur un pied d'égalité avec les hommes libres, les riches comme les pauvres, les hommes comme les femmes. Tout cela, c'est le contraire de la société gréco-romaine. De plus, Paul ne dicte pas sa conduite à Philémon. Il lui dit « invente une nouvelle relation avec un seul impératif, reçois-le comme un frère bien-aimé. » Et il le supplie au nom de l'amour, verset 9. Donc, l'agapé, l'amour chrétien, n'est pas codifiable dans un code de loi, mais c'est le fondement de l'éthique chrétienne. Alors, dans la vie sociale, eh bien, en général, le Nouveau Testament, pour faire comprendre, utilise l'exemple de l'amour d'un père pour ses enfants. Par exemple, on a, bien sûr, la parabole du fils prodigue, que le père accueille inconditionnellement, et pourtant il en a fait des choses, ce fils prodigue. Et justement, pour le faire comprendre à Philémon, Paul utilise cette métaphore. Il est son enfant, il est une partie de lui-même. Donc, Paul demande à Philémon, mais aussi à chacun de nous souvenir que si nous avons foi, c'est-à-dire confiance, hein, vous savez, fides, en latin, la foi, c'est la confiance, dans le message du Christ, il nous faut mettre l'agapé en pratique, les uns envers les autres, quel que soit notre statut social. Donc, c'est la grande originalité, enfin l'une des grandes originalités du christianisme. Seulement, tout ce que je vous dis là, c'est très général. Maintenant, peut-on trouver un exemple? Ça va être mon troisième point. Un exemple de mise en pratique de l'agapé dans la vie sociale. Alors là, il faut chercher ailleurs que dans l'Épître à Philémon. Et je vais prendre un exemple qui va peut-être vous surprendre. Parce que, comme il s'agit de la vie sociale, eh bien, si c'est un problème qui empêche de dormir les chrétiens du 1er siècle, il n'y a aucune chance que ça nous empêche de dormir, nous, puisqu'on est 20 siècles après. Donc, c'est un exemple qui préoccupe beaucoup les chrétiens de ce moment-là. C'est dans la première épître aux Corinthiens. Je ne vais pas vous le lire tout, parce que c'est vraiment très long. Il y a 3 chapitres. Donc, si Paul y consacre 3 chapitres, 8, 9 et 10, c'est tout de même un problème qui préoccupe beaucoup les chrétiens de Corinthe. Alors, ce problème, c'est peut-on manger de la viande qui a été sacrifiée à des idoles? Donc, c'est important, d'autant plus que ça concerne justement directement l'originalité de l'Église chrétienne dans la vie sociale. Alors, quel est le problème? Alors, la consommation de viande est très rare. Très rare, sauf pour les riches. Et donc, quand un animal est sacrifié dans un temple gréco-romain, une partie est brûlée, parce qu'on pense que ça monte vers les dieux de l'Olympe qui sont au-dessus de l'Olympe. Ils ne sont pas à l'Olympe, bien sûr, ils sont au-dessus de l'Olympe. On les représente toujours avec un nuage. Bon. Une partie va au prêtre, une partie est vendue à des commerçants qui la revendent sur des marchés, et une partie est remise à ceux qui ont payé l'animal sacrifié, en général des gens très riches ou des institutions publiques, et cela le donne pour qu'on puisse faire des banquets. Il y a des salles spéciales dans les temples gréco-romains pour que les pauvres puissent parfois manger de la viande. Donc, pour les pauvres, c'est l'unique occasion de manger de la viande. Alors, c'est quand même pas facile de s'en passer. Les riches peuvent en acheter sur les marchés, mais c'est toujours de la viande qui a été sacrifiée. Donc, dans les deux cas, il y a lien évident entre la viande et le polythéisme des Gréco-Romains. D'où le problème pour les chrétiens de Corinthe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut en manger ou pas? Alors, comme d'habitude, Paul va faire appel à l'agapé qui doit régner entre les membres de l'Église. Donc, au début du chapitre 8, eh bien, il dit, pour ce qui concerne la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans ce monde, il n'y a de Dieu qu'un seul. Autrement dit, mangez comme vous voulez cette viande sacrifiée aux idoles. Et puis, à la fin, chapitre 10, donc après toute une discussion, il conclut, vous ne pouvez pas partager la table du Seigneur et la table des démons. Autrement dit, n'en mangez pas. Bon. Alors, certains commentateurs disent, Paul, pour une fois, est pris en flagrant délit de contradiction à quelques passes d'intervalle. Bon. Mais, en fait, évidemment non. Vous savez bien que je vais vous dire non. Mais pour comprendre ce qu'il veut dire, il faut se souvenir qu'alors, à Corinthe, il y a au moins deux parties à ce propos. Il y a d'un côté les gens instruits. Mais les gens instruits, dans la société romaine de ce temps, c'est des gens riches. Et comme ils sont instruits, ils savent qu'il n'y a pas d'idole dans ce monde, comme dit Paul, et que donc les viandes ont été sacrifiées à quelque chose qui n'existe pas. Et comme ça a été sacrifié à quelque chose qui n'existe pas, eh bien, vous pouvez parfaitement en manger sans état d'âme. Et on peut penser que Paul en fait partie. Paul est un lettré grec. Paul est instruit. Paul est très probablement d'une famille au moins aisée et sans doute riche. Et puis, il y a le deuxième groupe, c'est les gens non instruits. Et dans la société de ce type, forcément, c'est les pauvres. Et cela... Eh bien, ils viennent de fuir le paganisme gréco-romain et ils auraient l'impression d'y retourner en mangeant de la viande sacrifiée dans les temples païens. Alors, que va faire Paul? Va-t-il approuver les forts et éduquer les faibles ou désavouer les forts au profit des faibles? Comme d'habitude, Paul prend une troisième solution qui est conforme à son éthique et à son appel à la responsabilité. Il dit « les aliments sont neutres ». D'ailleurs, Jésus l'a dit lui aussi. Vous savez que Jésus a dit « mais mangez ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que vous dites parce que vous mangez. » Bon. Mais la liberté des riches scandalise les pauvres. Et ça, c'est pas neutre. La nourriture, c'est neutre. Mais ça, c'est pas neutre. Donc, le tabou, ce n'est pas la nourriture, c'est la conscience d'autrui. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Autrement dit, même si on a raison, il vaut mieux renoncer à exercer sa liberté plutôt de scandaliser les pauvres. Et voyez-vous, il me semble que c'est toujours d'actualité, que ce soit dans notre Église ou dans la société en général. Donc, pour terminer, cherchant un peu l'idée générale qu'on trouve dans le principal message de l'Épître à Philémon, c'est une morale du discernement. Quand on pose à Paul une question morale. En général, il ne tranche pas, il déplace la question. Il ne fixe pas de règles, il n'impose rien, il en appelle toujours à la réflexion et au discernement. C'est très clair dans l'épître à Philémon. Il dit à Philémon de discerner si la question qui se pose s'inscrit dans l'impératif de l'amour d'autrui, dans l'agapé. « J'aime mieux te supplier au nom de l'amour », il écrit. Donc, il ne pose pas de règles intemporelles, mais il incite à se décider en fonction de valeurs qui nous font penser, nous aussi, au sermon sur la montagne. Mais, voyez-vous, si Paul et Jésus parlent de façon si radicale de l'amour, c'est parce que cet agapé, ce n'est pas un amour d'origine humaine. C'est un amour qui vient de Dieu. On pourrait même dire, c'est un don de Dieu. Paul n'écrit pas un code de la charité chrétienne à appliquer sans réfléchir. Et il dit, laissez-vous guider par votre foi. C'est-à-dire, laissez-vous guider par la confiance que vous avez en Dieu. Parce que Paul, comme Jésus, nous assure que Dieu viendra au secours de notre faiblesse quand ce que nous lui demandons est dans la ligne de sa volonté. Comme l'écrit Paul au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. » Ce qui veut dire, pour vous décider en face d'un problème moral, n'attendez pas de l'Évangile un mode d'emploi. Mais sachez que dans l'effort de discernement qui vous est demandé, vous pouvez avoir confiance en Dieu. Notre Dieu est fidèle dans ses promesses, comme il l'a été notamment à Abraham, et il nous aidera à discerner ce qui est conforme à sa volonté. La foi ne fait pas du chrétien un soldat qui obéit, mais un sujet libre qui réfléchit. L'éthique chrétienne est donc une éthique de la liberté et, de ce fait, de la responsabilité. Voilà, me semble-t-il, le message principal de l'épître à Philémon. Amen.